bonsoir Harel à la technique et bonsoir Isaac.
Bonsoir Richard, bonsoir Harel, bonsoir à tous.
Alors Isaac, une fois n'est pas coutume, nous aurons un gros dossier Israël et un gros dossier américain, évidemment. Alors démarrons peut-être par l'intersection de ces deux dossiers, puisque on sait qu'il y a une semaine, une résolution a été votée aux Nations Unies. Je crois que c'était lundi dernier, justement, plus ou moins au moment où nous faisions notre émission la semaine dernière.
Une demi-heure avant.
Une demi-heure avant, voilà. Donc on n'a pas vraiment pu la commenter dans le détail. Donc une résolution qui avait été déposée par les 10 pays non membres permanents du Conseil de sécurité, suite à une résolution qu'avaient déposée les États-Unis le vendredi précédent, quelques jours avant. Résolution assez classique pour les Américains, puisqu'elle appelait un cessez-le-feu temporaire, mais conditionné à la libération des otages. Et elle condamnait fermement également le Hamas. Cette résolution a été... la Chine et la Russie ont apporté leur veto à cette résolution, donc en conséquence de quoi elle n'a pas pu être votée. Et donc les Américains ont décidé le lundi de s'abstenir d'une autre résolution, donc celle qui a été proposée donc, par ces 10 pays non membres permanents, mais qui était radicalement différente de celle de vendredi précédent. Puisque si elle appelait à la libération des otages, elle appelait aussi à un cessez-le-feu
immédiat.
Alors pas permanent, mais immédiat, et peut-être presque, je crois pour la durée du Ramadan, mais qui devait normalement alors se prolonger.
Conduire à
un cessez-le-feu permanent. Mais surtout, il ne conditionnait pas l'un à l'autre. C'était deux demandes, sans conditionner effectivement le cessez-le-feu à la libération des otages, et puis ne mentionnait strictement rien concernant le Hamas. Cette résolution a donc été votée, puisque les Américains ont décidé de s'abstenir. Donc marquant là, je pense, un changement assez radical de leur position depuis le 7 octobre, malgré le fait que le lendemain, je pense, lorsque cette question a été posée à Kirby, donc le porte-parole du Pentagone, malgré son objection à cette question, il affirmait que non, la position américaine
n'avait pas changé.
N'avait strictement pas changé. On se demande pourquoi ils se sont abstenus alors. Si la position était la même, ils auraient très bien pu la voter, cette résolution, mais ils ont décidé de s'abstenir. Alors, que penser de cette décision américaine?
Ils disent s'être abstenus et pas de l'avoir votée uniquement parce que la résolution, la 27-28, ne condamnait pas le Hamas. C'est la seule réserve que les États-Unis avaient encore par rapport à la résolution qui a été proposée par les 10 membres non permanents au Conseil de sécurité. Donc c'est la raison pour laquelle ils se sont abstenus. Et effectivement, c'est un changement majeur, pas seulement depuis le 7 octobre, mais c'est un changement majeur par rapport à leur propre résolution qui était déposée au vote, proposée au vote 3 ou 4 jours auparavant seulement, puisqu'il y avait effectivement une subordination entre les deux. Demande de cesser le feu immédiat, à condition qu'il y ait libération des otages. Cette fois-ci, le lien de subordination n'existe plus. Il y a effectivement, dans la résolution 27-28, celle qui a été votée le lundi dernier, deux exigences, mais elles ne sont pas liées l'une à l'autre. La première exigence, c'est cesser le feu immédiat jusqu'à la fin du Ramadan, c'est-à-dire jusqu'au 9 ou au 10 de ce mois, qui pourrait conduire ou qui devrait conduire ou dont on ferait tout pour que cela conduise à un cessez-le-feu permanent, d'une part, et de l'autre, une libération des otages. Mais l'un n'est pas conditionné par l'autre. C'est effectivement un changement majeur de la diplomatie américaine, mais on voit que de petite touche en petite touche, depuis le début de l'année en particulier, on voit que la diplomatie américaine prend ses distances par rapport à l'intervention israélienne à la suite de l'agression du Hamas le 7 octobre. Il faut savoir qu'on rentre dans la compétition électorale, dans la campagne électorale aux États-Unis, et la solution à deux États, je ne parle pas d'Israël et Palestine, je parle de la solution à deux États, Michigan et Minnesota, elle pèse de plus en plus sur le regard que porte cette administration américaine sur le conflit déclenché par le Hamas. C'est quoi la solution à deux États, Michigan-Minnesota? C'est parce qu'il y a dans ces deux États en particulier une minorité relativement importante d'Arabes américains, arabo-américains, dont le vote est crucial, indispensable pour une victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle du 5 novembre, pour pouvoir emporter ces deux États qui sont deux États bascules, en particulier d'ailleurs le Michigan. Et donc de plus en plus, on voit que le regard américain, il est teinté de considérations domestiques. D'ailleurs, c'est ce qui a incité, et je passe directement à un sujet que l'on va aborder plus tard, c'est à Joe Lieberman et à Alan Dershowitz, qui travaillent ensemble d'ailleurs.
Qui travaillaient ensemble
jusqu'au décès la semaine dernière de Joe Lieberman, à 82 ans, suite à une chute malencontreuse, qui travaillaient à un appel à la Maison-Blanche et à l'administration américaine de Joe Biden. Attention, vous faites certainement attention au vote des arabo-américains pour la campagne électorale, mais faites attention, vous pourriez perdre le vote juif si vous décidez de sacrifier Israël à vos ambitions de réélection. Et le vote juif n'est pas nécessairement acquis, dit Alan Dershowitz et Joe Lieberman de son vivant, n'est pas nécessairement acquis si vous décidez, eh bien, de sacrifier Israël. Et le vote juif, il est plus important encore que le vote musulman aux États-Unis, puisqu'il est présent dans un plus grand nombre d'États, et que si l'administration américaine se mettait à dos le vote juif, qui a été jusqu'à présent extrêmement fidèle et constant au Parti démocrate, puisque depuis 1968, je pense, il y a une moyenne d'adhésion de la communauté juive américaine au Parti démocrate de 71%. Bien, ça pourrait être aussi décisif. C'est de rappeler, et d'ailleurs, depuis la mort de Joe Lieberman, Alan Dershowitz s'attellera à convoyer ce message à l'administration américaine. Attention, pour gagner le vote arabo-musulman, vous risquez de perdre dans des États au moins aussi bascules que le Michigan le vote juif si vous sacrifiez Israël. Donc, il y a manifestement un changement dans la politique américaine. On l'a suffisamment évoqué ici. Le souci que manifeste l'administration américaine à l'égard de la guerre menée par Israël à Gaza à la suite de l'agression du Hamas le 7 octobre est de plus en plus critiqué par l'administration américaine. On a entendu, par exemple, un des chefs d'état-major américain, Brown, le général Brown, dire que les Israéliens ont demandé un certain nombre d'armes. Ils les reçoivent, mais pas toutes. Mais pas toutes parce que, d'abord, nous en avons besoin pour notre propre usage, mais ensuite, aussi, parce que nous ne souhaitons peut-être pas les leur donner. Donc on voit de plus en plus, par petites touches, eh bien, cette administration américaine se montrer de plus en plus presque hostile, dirais-je, à l'État d'Israël. On le voit à propos de l'affaire de Rafah, où de plus en plus les États-Unis laissent entendre à Israël qu'ils ne les suivraient pas s'il y avait une invasion, parce qu'ils attendent toujours des Israéliens la présentation d'un plan d'évacuation de la population civile qui se trouve à Rafah après qu'elles aient été évacuées du nord de la bande de Gaza et du centre de la bande de Gaza vers le sud. Ne leur a pas été présenté.
Alors, vous mentionnez effectivement cette menace concernant les armes. Ceci étant, je crois que c'était le ministre de la Défense qui était à New York, à Washington la semaine dernière, oui. Yoav Gallant. Bon, il a reçu confirmation, si j'ai bien compris, qu'il livrerait les F-35 qui étaient déjà prévus dans le circuit d'acquisition. Également, je pense, quelques milliers de bombes supplémentaires. Bon, donc il y a du déclaratif d'un côté. Dans, les faits concrets, pour l'instant, il semblerait que les livraisons d'armes se poursuivent. De ce point de vue-là, bon, on verra ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Ils n'ont pour l'instant pas fait véritablement défaut à Israël dans ce domaine-là. Dershowitz, là, juste un petit commentaire. C'est vrai, je le suis assez fréquemment. Hein, il a des podcasts assez intéressants, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent surtout aux questions juridiques qui touchent Donald Trump aux États-Unis. Il y a toujours des commentaires assez pertinents sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'arrête pas d'expliquer que depuis, c'est un monsieur assez âgé, il doit avoir 85 ans.
Oui.
Donc depuis qu'il est en âge de voter, qu'il
vote démocrate.
Vote systématiquement démocrate.
Il pourrait cette fois pas voter démocrate.
La première fois que j'ai entendu, il était en Israël. Il a décidé d'aller faire un voyage en Israël pour voir de lui-même ce qui s'était passé dans les kibbutz et parler à des témoins et à des victimes et, je crois aussi, à des personnalités, à des politiques israéliens. Mais il a déclaré depuis Israël, parce que je pense qu'il a été particulièrement outré par la déclaration de Kamala Harris.
Oui.
Et il a déclaré que, pour l'instant, il n'avait pas pris de décision. C'est la première fois que je l'entends dire ce genre de choses. D'habitude, il répète à l'envi qu'il vote systématiquement pour les démocrates, même s'il a défendu Donald Trump, et qu'il se battra toujours pour défendre juridiquement Donald Trump, mais qu'il est un démocrate avéré, qu'il votera toujours démocrate. C'est la première fois que je l'entends dire que, pour l'instant, sa décision n'est pas prise. Et effectivement, donc, il faut que la société, la communauté juive aux États-Unis
se mobilise,
parce qu'effectivement, c'est 6 à 7 millions de personnes par rapport aux 2 millions d'arabo-musulmans.
3 millions, 3 millions et demi.
3 millions peut-être maintenant,
oui.
Ok. Enfin, c'est en tout cas deux fois
oui,
plus.
Oui, bien sûr.
Et donc, ils ont véritablement les moyens de mettre la pression sur cette administration américaine.
Ce que la communauté juive américaine n'a pas fait jusqu'à présent. Elle a été très, très discrète. La communauté juive, à l'inverse de la communauté musulmane des États-Unis, qui est très vocale, qui se fait entendre et qui menace, et qui d'ailleurs,
plus que vocale,
puisqu'elle est dans la rue maintenant, elle menace. On l'a vu d'ailleurs à la messe de Pâques, à la cathédrale Saint-Patrick à New York, elle a été chahutée par des manifestations pro-palestiniennes, enfin pro-palestiniennes antisémites. Mais c'est une autorité morale à la Auschwitz, exactement comme Joey Lieberman. Joey Lieberman, rappelez-vous, c'était le colistier de Al Gore en 2000. Première fois qu'un colistier était juif, faisait partie de la communauté juive, et puis il s'est inscrit en qualité d'indépendant. Mais donc ce sont deux autorités morales qui ont joint leurs forces pour avertir la communauté juive que beaucoup de choses désormais dépendent d'elle. Il faut désormais que la communauté juive sorte du bois et fasse entendre sa voix d'une manière audible et naturellement civile. Ils vont pas se manifester de la même manière que les pro-Hamas aux États-Unis, mais fasse clairement entendre par des relais institutionnels à l'administration américaine que on pourrait avoir un divorce plus ou moins large entre la communauté juive et le Parti démocrate. Je ne dis pas qu'ils voteront pour Donald Trump, ça paraît impensable, mais en tout cas s'abstenir de... En tout cas pour certains, oui, pourrait, mais oui. En tout cas la majorité de la communauté juive, je ne pense pas qu'elle céderait aux sirènes trumpiennes. Peut-être certains iraient chez Robert Kennedy Jr., ça c'est pas impossible, même si le choix de sa colistière pourrait... leur faire douter de la pertinence d'un tel soutien, mais en tout cas manquer au Parti démocrate dans des états bascules extrêmement importants. On pense au Michigan, on pense au New Jersey, on pense à l'état de New York, on pense à l'Arizona, on pense au Nevada, à la Géorgie, au Wisconsin, où ce sont des états où la communauté juive est présente en nombre suffisant pour assurer la bascule. Et donc, et c'est impératif. Parce que la communauté juive n'est pas un paramètre pour l'instant dans le virage diplomatique des États-Unis. L'administration américaine fait comme si le vote juif lui était acquis, quoi qu'il fasse, parce que ça fait 50 ou 60 ans que les juifs votent en masse pour le Parti démocrate. Eh bien, ces voix de Lieberman et de Dershowitz, c'est un avertissement. Je souhaite que ce soit un premier avertissement seulement, une première carte jaune, et qu'elle pourrait se transformer en carte rouge pour faire entendre à l'administration américaine que pour les démocrates modérés, ceux qui font pas partie des fous furieux du courant radical, eh bien, la question d'Israël reste primordiale, reste extraordinairement importante quant à la légitimité et à la sécurité de l'État d'Israël, et qu'on ne peut pas jouer impunément avec elle.
Et quand on observe les sondages, c'est ça qui est assez étonnant dans cette posture de l'administration Biden, qui semble s'obstiner dans ce virement, si je puis dire, pro-palestinien. C'est que quand on observe les tout derniers sondages, par exemple au Michigan,
oui. Oui.
Trump est donné totalement gagnant. Les tout derniers sondages que moi j'ai pu observer, c'était 50-42.
Oui, oui.
Je n'en ai pas vu dans le Minnesota récemment, mais enfin, en tout cas, le Michigan, où se trouve probablement la plus grande concentration d'électeurs...
Mais le Minnesota n'est pas un État bascule. Hein.
Un État bascule, très bien. Parce que le Michigan,
oui, il est
incontestablement,
bien
en
sûr.
Plus avec un nombre d'électeurs, de grands électeurs assez important. Les sondages sont désespérément en berne pour Joe Biden, et plus il semble essayer de se rapprocher de la communauté musulmane, plus les sondages semblent être négatifs en sa défaveur dans cet état-là.
C'est vrai, ça ne lui rapporte pas grand-chose. Ouais. En réalité, il risque de perdre les deux
tableaux.
Il risque de perdre sur les deux
n'en
tableaux.
Il n'en fait pas assez pour les Arabes.
Exactement.
Il se met à dos la population
juive. Tout ce que va faire l'administration américaine en faveur des Palestiniens n'atteint pas le minimum attendu par ceux-ci. Et ce qu'il fait pour les Palestiniens risque d'être trop pour la communauté juive. Et donc, à ce jeu-là, d'équilibriste, eh bien, l'administration américaine risque de perdre les deux. Un divorce de la communauté juive, qui serait historique, et eh bien, une abstention de la communauté musulmane, parce qu'elle estime que, de toutes les façons, quoi que fasse cette administration, elle est trop engagée, elle est trop alignée sur les intérêts de l'État d'Israël.
Et Joe Lieberman, effectivement, peut-être un dernier mot sur Joe Lieberman. Oui. C'était quand même un grand personnage.
Oui, et comment
Et effectivement, il avait perdu de très très peu. Hein. Oui. Rappelez-vous, en l'an 2000, c'était cette fameuse élection en Floride.
Ces images où on voit avec les cartes d'électeurs.
Pour voir si ça avait été bien perforé
bien
ou pas.
Bien poinçonné.
Il y avait quelques centaines de votes d'écart. Il avait recompté, je pense, les votes en Floride à de multiples reprises. Et c'est finalement la Cour suprême.
Oui.
Je crois, dans un vote de 5 à 4, très serré, avait finalement octroyé la victoire.
Pour 500 voix, de
568
différence.
Voix, je crois. Enfin, c'est extrêmement serré, rendez-vous compte, à George Bush à l'époque.
Exact.
Et puis, Joe Lieberman, c'est aussi, je pense, la toute première personne, en tout cas un des tout premiers politiques démocrates, qui a été attaqué frontalement par les progressistes démocrates.
Mm-hmm.
C'était un sénateur de l'État du Connecticut, je pense, qui en 2006. A perdu les primaires démocrates. Donc il y avait un candidat progressiste qui s'était présenté contre lui. Il avait perdu cette primaire et il avait décidé de maintenir sa candidature en tant qu'indépendant.
C'est ça.
Et il l'avait remporté
en
tant qu'indépendant. Donc enfin, il faut saluer sa mémoire. C'est vrai que c'est une triste perte pour évidemment sa famille, les États-Unis, pour Israël, suite à une chute malencontreuse, tout à fait.
Oui, c'est une autorité morale. C'est une autorité morale. C'est comme... Comment dire ? C'est presque la fin d'un monde. C'est presque la fin d'un monde.
Les démocrates centristes.
Oui, voilà. Les démocrates modérés, ceux que l'on suit, je dirais presque aveuglément, ceux qui incarnaient, si vous voulez, le soutien bipartisan à Israël. Parce que ce que l'on constate aujourd'hui, et c'est peut-être un shift épocal, historique, c'est que on peut désormais questionner le caractère bipartisan des États-Unis à l'égard de l'État d'Israël. C'est de plus en plus une affaire partisane. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à une forme, comment dirais-je, d'européanisation des mœurs politiques américaines. Vous savez, on parle beaucoup de l'américanisation de l'Europe. On n'attire pas suffisamment l'attention sur l'européanisation des mœurs américaines, en particulier à l'égard de l'État d'Israël, qui est un témoin de cela. Et on a observé ce shift avec la première élection d'Obama en 2008.
Tout à fait. Alors, nous avons démarré cette émission avec cette fameuse résolution des Nations Unies de lundi dernier. La réaction de Benjamin Netanyahu ne s'est pas fait attendre, puisqu'il y avait une délégation israélienne. Je crois que c'était Ron Dermer, son conseiller.
Tsaki Hanegbi.
Et Hanegbi, qui devait se rendre à Washington pour discuter justement de cette offensive qui doit avoir lieu à Rafah. On sait que les Américains exercent une forte pression sur les Israéliens. Alors je ne sais pas si c'est pour ne pas la mener, ou en tout cas pour ne pas la mener tant qu'ils ne seront pas satisfaits d'un plan d'évacuation humanitaire qui permettrait de limiter grandement les pertes civiles à Rafah. En tout cas, Benjamin Netanyahu a manifesté son mécontentement, a annulé la visite de cette délégation, mais ça ne semble qu'être partie remise, puisque si j'ai bien compris, cette réunion devrait avoir lieu maintenant virtuellement, peut-être cette semaine, pour effectivement discuter de ce que devrait être le plan israélien, ce plan opérationnel, pour finalement essayer de s'attaquer à Rafah et se débarrasser des 4 ou 5 derniers bataillons du Hamas qui sévissent toujours dans cette enclave.
Alors, Benjamin Netanyahou a été très très vocal à la suite de l'abstention des États-Unis sur la résolution 2728 que nous commentions tout à l'heure. Il disait que c'était une mauvaise décision. En termes diplomatiques, c'est dur comme sortie. Il avait fortement critiqué parce que ça fragilisait la position d'Israël dans les négociations des otages, parce que ça convoyait le message aux Palestiniens que plus la guerre s'éternise, eh bien plus l'indignation grandit dans la population mondiale et fait pression sur Israël pour arrêter la guerre et fait pression sur l'administration américaine pour faire pression sur l'administration israélienne pour obtenir ce but-là. Et le vote de la 27-28 exigeant un cessez-le-feu immédiat va dans ce sens et conforte la position du Hamas. Elle se dit le temps joue pour nous. Et plus on résistera, plus on étalera de morts, de dégâts dans la population civile, plus ça va dans l'autre sens. Donc nous avons intérêt à sacrifier plus encore de civils pour que l'indignation grandisse et que la pression sur Israël s'accentue. Et on le voit, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc le but de la stratégie poursuivie par le Hamas est extrêmement cynique, mais très intelligente, parce que dans une guerre asymétrique, elle sait parfaitement qu'elle ne peut pas vaincre militairement les Israéliens. Elle se fait d'ailleurs littéralement écraser, écharper, mais sur un plan, même pas politique, mais sur un plan métapolitique. Elle joue sur la réaction de la population civile du monde. Et elle étale ses morts, elle étale ses blessés. Et elle n'hésite pas à le faire, c'est sa stratégie. Et sa stratégie, ça s'installe dans le temps. Plus la guerre dure, plus la pression sur Israël s'accentue, et plus elle a des chances de sortir, je ne vais pas dire indemne, mais suffisamment peu diminuée, peu dégradée, pour espérer survivre à cette guerre et donc être présent dans l'avenir, à la fois sur le plan militaire et sur le plan politique. Et donc cette stratégie fonctionne. Et la deuxième stratégie, et là c'est une victoire du Hamas, il faut le reconnaître, c'est d'avoir réappris au monde à détester les Juifs, d'avoir donné au monde des raisons de détester les Juifs à travers la détestation de l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, il y a une véritable bacchanale antisémite dans le monde entier. Un antisémitisme qui est désormais pratiquement normalisé, banalisé. On ne s'en indigne même plus. Et ça, c'est une des victoires principales. C'est-à-dire que le monde, désormais, a désigné Israël, l'État juif, comme le nouveau juif, le juif des nations. Et a fourni, à tous ceux qui avaient une forme d'antisémitisme refoulé, une raison, d'exprimer cet antisémitisme par l'intermédiaire d'une critique à l'égard de l'État d'Israël. Donc là, sur ce plan-là, c'est assez réussi. On ne voit pas très bien, pour cette histoire de Rafah, soit dit en passant, si Rafah est en discussion pour l'instant, la guerre n'en continue pas moins au centre de la bande de Gaza et au nord. On l'a vu avec l'hôpital Al-Shifa, où la réussite de l'armée israélienne est des plus éclatantes, puisqu'il y a eu des centaines de terroristes qui ont été éliminés, et d'autres centaines, je crois 700 ou 800, qui ont été arrêtés, qui fournissent des informations, des renseignements très très précieux à l'armée d'Israël pour la poursuite de ces opérations. Maintenant pour Rafah, ce qu'on propose, ce que les Américains proposent aux Israéliens, de ce que j'ai compris dans le plan proposé par les Américains, qui n'est pas très très clair, mais soit, c'est de permettre à Israël d'assurer le contrôle de ses forces sur le corridor Philadelphie et d'encercler Rafah sans pour autant prendre la ville. On voit pas très bien comment une telle histoire pourrait se passer, parce que ça veut dire quoi, encercler Rafah? Et pour combien de temps? Et pour que cet encerclement soit garanti, il faudrait une présence permanente de l'État d'Israël autour de Rafah. Il reste encore des tunnels qui permettraient à ces gens qui sont à Rafah pour l'instant de migrer vers le centre ou vers le nord de la bande. Donc on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Et c'est comme si on demandait aux Israéliens Imaginez-vous, on est en 1945, les forces nazies sont battues sur le front ouest, elles sont battues sur le front est, et puis on va dire on va encercler Berlin, et on va laisser le centre du nazisme intact, et on va l'encercler. C'est un peu ce qu'on demande à Israël, parce que le résidu des bataillons du Hamas, les 4 sur les 18, sur les 24 qui restent, enfin non, il y en a 18 qui ont été détruites, il en reste 4 à Rafah et 2 au centre de la bande de Gaza. Mais bien, l'essentiel des forces, c'est à Rafah. Ce qu'on demande, c'est en réalité de les encercler ad vitam aeternam. Et en même temps, on critique Israël lorsque on pense éventuellement à une présence sécuritaire permanente de l'État d'Israël dans la bande de Gaza. Donc on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Il est évident qu'il n'y a pas d'autre solution pour Israël, pour assurer sa sécurité pérenne, c'est de rentrer dans Gaza. Le problème, et c'est là où les Américains marquent un point, c'est que il faut effectivement garantir aux Américains que un plan suffisamment crédible pour l'évacuation de la population civile. Il faut savoir que Rafah, c'était 200 ou 180 000 ou 200 000 personnes avant la guerre. Aujourd'hui, c'est 1,3 million, 1,4 million. Ça vient du nord, ça vient du centre. Tout le monde, de Khan Younes, tout le monde s'est réfugié à Rafah. C'était déjà suffisamment difficile sur le plan logistique, mais les Israéliens ont mené ça de main de maître. Maintenant, c'est une chose de les faire venir du nord et du centre vers le sud, mais c'est une autre de les faire remonter du sud vers le centre et vers le nord, parce que le centre et le nord ont été dévastés et qu'il n'y a plus aucune structure qui existe. Ce qui veut dire qu'un plan crédible, eh bien, c'est un plan qui prévoit non seulement de les mettre à l'abri de la guerre qui va s'installer ou qui s'installerait à Rafah, mais c'est de fournir à ces populations nouvellement déplacées, à nouveau déplacées, eh bien, des tentes, de quoi vivre, de quoi se soigner. Et donc, c'est avant tout, avant d'être un problème militaire, c'est un problème logistique. Et je pense qu'une fois que ce problème sera résolu, mais ça va s'installer dans le temps, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pour prendre toutes les mesures utiles à mettre toute cette population à l'abri au centre et au nord de la bande de Gaza. D'ailleurs que les Israéliens s'occupent de nettoyer des résidus de présence de la djihad islamique et du Hamas, ça prendra du temps. On ne voit pas très bien maintenant comment est-ce qu'on peut envisager, avec cette exigence faite par les Américains aux Israéliens, que toute opération, quelle que soit son ampleur à Rafah, doit être précédée par un plan crédible d'évacuation de la population de Rafah vers le sud, vers le nord ou vers le centre. Comment est-ce qu'on pourrait voir cette opération israélienne à Rafah s'installer ?
Alors, cette situation humanitaire invite également une évolution dans le vocabulaire.
Oui.
On sait que l'accusation de nettoyage ethnique était populaire il y a quelques mois.
C'était trop soft. Hein.
Ensuite, c'était l'apartheid. Ça résonnait bien, évidemment, dans l'esprit des populations occidentales, pour le souvenir qu'elles en avaient de ce qui se passait en Afrique du Sud. Mais bon, là aussi, au bout d'un moment, on se fatigue. Puis, avec la guerre à Gaza, c'est le mot de génocide qui a été employé. La Cour de justice internationale avait été saisie justement par l'Afrique du Sud pour cette accusation contre Israël. Mais bon, la plupart des médias s'en donnent à cœur joie. Beaucoup de partis politiques européens également. Pas que les partis politiques, dans le monde culturel, dans le monde sportif, dans le monde académique. Enfin, c'est le mot qui a été très très fréquemment employé, utilisé pour essayer de délégitimer Israël, essayer de leur faire porter le même poids. Hein. Ils étaient les victimes eux-mêmes d'un génocide, donc il faut absolument leur faire porter cette accusation pour essayer d'équilibrer les choses, si je puis dire. Mais là, bon, on se fatigue un petit peu, on sent quand même qu'à force de crier au loup à longueur de journée, et puis finalement on se rend bien compte que 30 000 morts, si tant est qu'il y aurait 30 000 morts à Gaza, c'est tout, sauf un génocide. Un nouveau mot s'est installé, Isaac, par rapport à cette crise humanitaire, quel est-il ?
Le mot famine.
Ah, famine.
Israël serait coupable du crime ultime, je dirais presque, d'affamer une population de 1,3 million, 1,4 million Palestiniens. Mais vous voyez la gradation, on l'a souvent commenté ici d'ailleurs. On a commencé à accuser les Israéliens d'occupation, qui est éminemment discutable, s'agissant de la Judée-Samarie, plus encore de Gaza, puisque ça a été évacué en 2000, en 2005. On est passé à l'apartheid, comme vous le rappelez justement.
Puis ethnique.
Épuration ethnique. Épuration ethnique, puis génocide. C'est l'action de la Cour internationale de justice lancée par l'Afrique du Sud. Maintenant, il y a la famine. L'accusation de famine. Et d'ailleurs, il y a une décision de la Cour internationale de justice qui a été encore une fois sollicitée par l'Afrique du Sud. C'est une décision de la Cour internationale de justice, un avertissement lancé à Israël pour que ce dernier prenne toutes les mesures pour éviter une famine. Alors que rien ne prouve qu'il y a un risque de famine, tout le contraire, puisque les livraisons de camions d'aide humanitaire n'ont jamais été aussi nombreux. Le problème, il est, si problème il y a, il est lié à la capacité des organisations humanitaires dans la bande de Gaza même pour assurer la distribution de cette aide qui est largement fournie par l'État d'Israël par les points de passage. Mais donc il n'y a pas de risque de famine. Et d'ailleurs, les images que l'on voit, même sur des chaînes non suspectes de pro-israélisme comme Al-Arabiya ou bien Al Jazeera, on voit très clairement des marchés qui sont abondamment achalandés. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de difficulté pour trouver de quoi se nourrir. Mais en tout cas, il y a de quoi largement fourni par l'État d'Israël. Mais on voit cette gradation à quoi elle sert. Elle sert à nourrir l'accusation ultime qui sera, pas l'accusation ultime, l'interrogation ultime qui sera celle portant sur la légitimité d'un État juif. Et d'ailleurs, on a vu dans la dernière sortie de Francesca Albanese, une des représentantes des Nations Unies pour le peuple palestinien.
La rapporteuse,
dans une de ses dernières sorties, dire que pour l'instant, elle n'interrogeait pas la légitimité de l'État d'Israël. Mais ça pourrait être le cas bientôt. Donc on voit que toute cette gradation, elle sert en réalité à questionner la légitimité d'un État où les Juifs pourraient assurer la maîtrise de leur destin. Il s'agit de cela. C'est l'État de trop, la dispersion duquel permettrait l'instauration de la concorde universelle. Et après, le peuple de trop. C'est l'État de trop, c'est le peuple de trop. C'est comment apprendre petit à petit à normaliser cette interrogation sur la légitimité, le droit à l'existence d'un État juif sur sa terre ancestrale.
Oui, Francesca Albanese, donc elle a sorti un nouveau rapport. Hein. Elle est très, très productrice. Elle travaille beaucoup, cette femme. Et donc un nouveau rapport qui est sorti, je pense, la semaine dernière, qui s'appelle « Anatomie d'un génocide ». Ça rappelle le titre d'un film, je crois, qui a gagné récemment.
Anatomie d'une chute.
Elle, c'est Anatomie d'un génocide, où elle, répète effectivement les mêmes accusations. Mais enfin, cette femme, c'est également celle qui avait dit que le pogrom du 7 octobre n'était pas antisémite. Hein. C'était le résultat de 75 années de répression.
D'occupation.
Oui. D'occupation. Voilà un peu pour le personnage qu'est Francesca Albanese.
Mais 75 années d'occupation.
48, hein.
Oui, ça veut dire 1948. Ça veut dire que Haïfa, Tel Aviv, Beersheba, ce sont des implantations, ce sont des colonies. C'est exactement la même chose que Ariel, Gush Etzion. C'est exactement ça que ça veut dire. Donc ça interroge directement la légitimité de l'État juif.
Alors bon, on a parlé maintenant abondamment de ces pressions internationales qui s'exercent sur Israël, mais aussi maintenant des pressions domestiques qui revoient le jour. C'est vrai que depuis le 7 octobre, il y avait une forte solidarité. Je pense qu'elle subsiste toujours. Mais enfin, on voit maintenant effectivement à nouveau des manifestations de masse dans les rues de Tel Aviv. Je pense que ce week-end, il y avait quelques dizaines de milliers de manifestants. Réclamant en substance de nouvelles élections, donc mettant la pression sur le gouvernement actuel pour effectivement organiser des élections. Ce risque d'élection est également augmenté par les tensions qui existent avec la communauté Haredi, puisqu'on sait que une loi, je pense qu'elle date de 2017, je peux me tromper. Une loi de 2017 les exemptait, en tout cas la grande majorité d'entre eux, de conscription à l'armée israélienne. Cette loi, je pense, est venue à terme il y a environ 9-10 mois.
Oui.
Mais elle avait bénéficié d'une extension.
Jusqu'au 31 mars.
Jusqu'au 31 mars, donc jusqu'à hier.
Oui.
Alors, je sais que le gouvernement travaillait à essayer de trouver une solution à ce problème, mais évidemment, avec la guerre qui s'est déclenchée le 7 octobre, ça n'a pas été, j'imagine, leur priorité essentielle. Et on le comprendra, évidemment, très bien. Enfin, en conséquence de quoi, depuis aujourd'hui, si j'ai bien compris, enfin, vous allez peut-être me corriger, techniquement, cette exemption a été suspendue, ou légalement, elle a été suspendue, et donc les Haredi seraient susceptibles d'être enrôlés dans l'armée israélienne. Alors, qu'en est-il exactement de cette situation et quel risque court le gouvernement si jamais une solution n'est pas trouvée ?
D'abord, un petit mot sur les manifestations. Les manifestations portaient surtout sur la libération des otages. C'est-à-dire, jusqu'au 6 octobre, c'était la réforme judiciaire qui était avancée pour exiger le renversement de la coalition et l'écartement de Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, ce sont les otages qui exigent, famille des otages ou bien la gauche extrême qui exige que le gouvernement paie n'importe quel prix ce qu'elle sait parfaitement, ce que ces manifestants savent parfaitement que le gouvernement n'acceptera jamais, n'importe quel prix pour la libération des otages. Donc on se sert aujourd'hui des otages, comme on s'est servi hier de la réforme judiciaire, pour faire tomber le gouvernement. Je trouve que pendant un état de guerre où des soldats de tous bords et de toute obédience politique et de toute fidélité religieuse ou laïque sont en train de combattre les uns à côté des autres, épaule contre épaule, dans un même but commun, pour sauver l'État d'Israël, eh bien cette fragilité à l'intérieur même de ses frontières est pour le moins dommageable. Parce qu'il est évident que Israël ne peut pas payer n'importe quel prix pour la libération des otages, même s'il est évident que cette libération-là est une priorité pour le gouvernement israélien. Ensuite, de penser que n'importe qui d'autre à la tête d'Israël mènerait une politique différente pendant cette guerre et au regard de cette priorité de la libération des otages, c'est un rêve. On voit bien qu'il s'agit avant tout, c'est un prétexte, il s'agit de renverser le gouvernement, il s'agit de se débarrasser une fois pour toutes de Benjamin Netanyahou, et tous les moyens sont bons. Je pense que sur ce plan-là, ils n'y arriveront pas, pour une raison très simple, c'est que si effectivement 70% de la population israélienne se défie de Benjamin Netanyahou, ils sont aussi nombreux à considérer qu'il n'y a pas d'autre moyen de mener cette guerre que la manière dont qui est suivie par l'actuelle coalition. C'est-à-dire Benjamin Gantz à la place de Benjamin Netanyahou, ça ne changerait strictement rien. La guerre serait menée de la même manière, avec des buts de guerre et des ambitions qui seraient exactement pareil. Donc, je pense que il y a peu de chances que ces manifestations aboutissent, et c'est totalement irresponsable de la part de ces promoteurs de d'ourdir cette fragilité à l'intérieur des frontières israéliennes quand des soldats par dizaines de milliers, eh bien, combattent sur le front. Maintenant, la coalition est plus en danger par cette histoire des Haredi, la conscription des Haredi. Vous savez, c'est un problème qui existe depuis pratiquement la fondation de l'État d'Israël. On ne s'en est pas beaucoup occupé à la genèse de l'État parce que d'abord, ils étaient très peu nombreux. C'était pas nécessaire, c'était pas une urgence. Et puis, coalition après coalition, on a renvoyé ça chaque fois parce qu'on se disait que ça n'était pas suffisamment urgent pour risquer une coalition, la chute d'un gouvernement. Aujourd'hui, il y a un problème moral. Est-ce que tous les citoyens d'Israël, qu'ils soient laïcs, qu'ils soient sionistes religieux, qu'ils soient haredis, ont les mêmes obligations ? Sur le plan moral, ça paraît évident. Et puis, il y a un problème numérique aussi. Il y a un problème statistique, c'est que l'armée israélienne a besoin d'hommes, a besoin de main-d'œuvre. Elle est insuffisante par rapport à ses besoins logistiques. Il y a peut-être un deuxième front qui va s'ouvrir. Vous savez, jusqu'à la guerre du 7 octobre, déclenchée par le Hamas, Il était question, pas seulement dans le gouvernement, mais dans la société civile, de réduire l'armée israélienne. On considérait dans la société civile israélienne que l'armée était trop nombreuse, qu'on pouvait se passer d'une armée aussi nombreuse. Bien, le 7 octobre a remis les choses en place. Effectivement, Israël doit avoir une armée plus nombreuse que ce qu'elle est aujourd'hui, et Israël risque de devoir prolonger le service militaire de ceux qui sont conscrits actuellement, deux ans et huit mois, de le reporter à trois ans, et d'augmenter le temps des rappels, des milouim, de un mois à deux mois, voire trois mois, si l'armée continuait de faire face à un déficit de main-d'œuvre. Donc il y a un besoin urgent. Donc ce problème qu'on avait reporté d'année en année, de coalition en coalition, il devient urgent. Il faut le résoudre. Il y a évidemment énormément de résistance. Et énormément de résistance parce que, chez les Haredis, la crainte principale, la terreur, c'est une véritable terreur, au point que des leaders religieux en Israël disent « je préfère que ma famille entière soit massacrée par des Palestiniens plutôt que de voir eh bien, des Haredis risquer, prendre le risque de la sécularisation, c'est-à-dire de l'assimilation à la modernité ». Et donc on voit qu'il y a là quelque chose qui est pratiquement insurmontable, et donc de voir la coalition effectivement tomber. Je ne pense pas qu'elle tombera néanmoins, parce que les partis haredis, en quittant la coalition, risquent de se heurter à, si on ne peut pas raccommoder cette coalition avec des partis qui viendraient au secours de cette coalition-là, s'il y a des élections, je ne vois pas comment est-ce que les haredis trouveraient une oreille plus bienveillante que celle que lui a réservée le Likoud et les partis sionistes religieux. Donc je ne vois pas ce qu'ils auraient à gagner. Mais on voit bien que ce problème-là, il est désormais exigé par la société civile, et on peut le comprendre, la société civile israélienne, d'être résolu. Alors ça a été voté, le terme échéé le 31 mars, c'est-à-dire hier, à partir d'aujourd'hui, en effet, légalement, tout le monde est un conscrit potentiel. Tout le monde. Mais, laisse entendre la Cour suprême israélienne, les modalités d'application de cette disposition, de cette décision, n'interviendront que le 9 août prochain, ce qui laisse quelques longues semaines à la coalition pour imaginer une loi qui paraît difficile d'ailleurs à élaborer, mais qui satisfasse tout le monde ou qui rend tout le monde également insatisfait.
Et rappelons aussi effectivement que, encore une fois, légalement à partir d'aujourd'hui, ces recrues haredis ne sont pas enrôlées dans l'armée, les financements des yeshivot seraient également suspendus. Ah, donc oui. Il y a une condition qui est portée là aussi, c'est que, parce que j'imagine, je ne sais pas si on serait capable de les enrôler de force, ces gens-là, je pense qu'on n'en arrivera peut-être pas à cet extrême-là. En tout cas, d'un point de vue financier, on sait que ces yeshivot sont lourdement financées.
Dépendantes,
par l'État, oui, oui. Très dépendantes, et que donc là, évidemment, elles ont une arme plus que sérieuse et efficace pour essayer de se faire entendre. Enfin, le gouvernement.
Ça paraît peu envisageable, ouais. Peu probable que les Haredis soient engagés dans une unité combattante. D'abord parce qu'il y a le problème de la mixité. Ensuite, il faudrait que ce soit des commandants haredis et eux également, donc, mais qui aient suffisamment de formation pour pouvoir encadrer valablement ces nouveaux régiments ou bataillons, je ne sais trop. C'est probablement d'alléger la charte de l'armée dans les activités
logistiques, administratives.
Voilà, exactement, et donc d'amener les haredis de manière plus ou moins volontaire à s'engager dans le service national.
Alors, vous avez tout à l'heure mentionné le nom de Robert Kennedy.
Oui.
Donc parlons un petit peu des élections américaines. Je disais moi tout à l'heure que, en tout cas dans l'état pivot, dans l'état bascule du Michigan, Trump est largement en tête dans les sondages. Il est largement en tête dans beaucoup de ces états bascules, quasiment tous, je pense. Au niveau national également, il est 3, 4, 5 points d'avance par rapport à Joe Biden. Donc aujourd'hui, hein, dans l'état actuel des choses, tout laisse penser que Donald Trump a de fortes chances d'être réélu en novembre. Donc vous avez mentionné effectivement que Robert Kennedy, donc, qui est ce démocrate, mais qui a quitté le parti démocrate pour se présenter en tant qu'indépendant, a choisi sa colistière. Mm-hmm. C'est une femme, comment s'appelle-t-elle déjà ?
Nicole Shanahan.
Nicole Shanahan, l'ancienne épouse de Sergey Brin, je pense, hein, l'un des deux fondateurs de Google. Donc, j'imagine qu'elle doit avoir un portefeuille...
Poche profonde.
Des poches profondes. Mais c'est une ancienne démocrate, elle aussi.
Oui.
Je pense qu'elle a beaucoup financé différents candidats démocrates dans le passé.
Et du courant progressiste.
Courant progressiste.
Enfin, dit progressiste.
Parce qu'elle est aussi très proche de tous les mouvements environnementaux. Mmh. Donc, en toute logique, sa présence sur la liste de Robert Kennedy ne devrait que pénaliser
Joe Biden
beaucoup plus que Donald Trump. Donc le combat semble relativement mal engagé pour Joe Biden, en tout cas dans l'état actuel des choses.
Vous avez tout à fait raison. Moi, je scrutais depuis plusieurs semaines la décision qu'allait prendre Robert Kennedy du moment qu'il s'est engagé dans la course à la présidentielle. Il n'a aucune chance d'être élu, mais bon. Mais son engagement dans la course présidentielle change la donne. Et je scrutais la désignation de son colistier ou de sa colistière avec beaucoup d'attention, parce que s'il avait annoncé comme partenaire sur son ticket quelqu'un de modéré, courant modéré démocrate, il risquait effectivement de prendre plus de voix à Donald Trump que d'en prendre à Joe Biden, ou en tout cas d'en prendre de façon égale aux deux concurrents. Mais lorsqu'il choisit une Nicole Shanahan, qui est une démocrate progressiste, qui a toujours soutenu les causes du courant radical du Parti démocrate, ça veut dire que Robert Kennedy Jr. va chasser sur les terres de Joe Biden, puisqu'on a vu Joe Biden qui cherche à se gagner les faveurs des populations comme les LGBT, comme les minorités, comme les Latinos, comme les Noirs, comme les Arabo-Américains. Donc, il va chasser sur ces mêmes terres. Et la victoire de Joe Biden dépend d'une participation suffisamment importante de ces minorités sur son nom pour avoir une chance de l'emporter. Et donc, s'il y a un concurrent au centre, qui est un ancien démocrate, qui a le nom qu'il a, Kennedy, c'est pas n'importe quel nom dans l'inconscient collectif américain, qui va chasser sur cette terre, effectivement, il va beaucoup blesser Joe Biden et il va favoriser Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump ne s'y est pas trompé. C'est un bonus considérable pour la campagne du candidat républicain.
Tout à fait. Et dans les sondages nationaux, justement, il est crédité pour l'instant de 12 à 13%.
Oui.
Ce qui est, je pense, le score le plus élevé depuis le fameux Ross Perot.
C'était 19% Ross Perot, en 92.
En 92, donc ouais. Une trentaine d'années, Ross Perot avait effectivement...
Et empêché
l'élection d'un démocrate à l'époque.
Non, ou d'un républicain. La réélection de George Bush, senior.
Tout à fait, excusez-moi, tout à fait. Donc lui, il est à 12-13%, donc c'est considérable. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier qu'il y a également deux autres candidats
oui.
indépendants. Il y a Jill Stein.
Et Cornel West.
Alors, Cornel West est un professeur très progressiste également, crédité de peu de votes, mais enfin de
2%.
2%.
Oui.
Ça peut faire des dégâts. Jill Stein, c'est la candidate écologiste qu'on retrouve à chacune des élections, mais qui également est créditée de l'ordre de 2 à 3%, qui peut également avoir un impact fort. Rappelons, on parlait du Michigan il n'y a pas si longtemps. Celle de 2016,
oui.
où Hillary Clinton
oui.
avait perdu contre Donald Trump. Prenons ce fameux État du Michigan. Jill Stein avait fait 50 000 votes.
Mmh.
Dans un État où Donald Trump l'avait remporté de 10 000 votes.
Oui.
Une victoire de Hillary Clinton au Michigan lui aurait permis de devenir président des États-Unis.
Absolument.
Donc on voit, il y a trois candidats indépendants, si je puis dire, Jill Stein, Cornel West et Robert Kennedy.
Écologiste, Jr. communiste.
Oui, communiste, tout à fait.
Oui, non, Cornel West, c'est un communiste.
Et Robert Kennedy Jr. avec cette nouvelle coalition
ça fait beaucoup.
Qui semble empiéter beaucoup sur les plates-bandes de Joe Biden.
Oui, alors s'il y avait un candidat crédible pour un deuxième mandat pour le Parti démocrate, ok, ça pourrait être des piqûres d'insectes. Mais là, c'est déjà un candidat qui est très, très affaibli, dont le bilan est assez peu remarquable, à la fois sur le plan domestique et sur le plan de la politique étrangère. Donc je pense que effectivement tous les signaux sont au vert pour Donald Trump si l'élection devait se tenir aujourd'hui. Donc sauf grosse surprise, On ne voit pas très bien comment on pourrait empêcher la marche triomphale de Donald Trump vers une réélection en 2024.
Tout à fait. Et il est à ce point désespéré qu'il a été obligé ce week-end de faire appel à ses deux routes de secours habituelles, hein, Bill Clinton et Barack Obama,
oui. Dans le cadre, New York.
À New York, dans le cadre d'une
fundraising.
Il a réussi. Bon, alors là, ça a plutôt bien marché pour lui, puisqu'il a récolté, je crois, 26 millions de dollars. Hein, mm-hmm. C'était une soirée organisée avec, effectivement, les deux anciens présidents, une pléiade de personnalités médiatiques de Hollywood, etc., qui s'étaient mobilisées pour le soutenir. Mais on sent bien que lui tout seul, hein, parce qu'on voit lorsqu'il essaye de visiter certains de ces états bascules, le nombre de personnes qui participent à ces manifestations est ridiculement faible. Donc il est obligé de faire appel aux deux routes de secours habituelles. Mais aussi, je pense qu'il a fait une faute politique ce jour-là, parce que c'est le jour des funérailles d'un...
Oui. D'un policier.
D'un policier américain.
Funérailles auquel a assisté Donald Trump, d'ailleurs.
À laquelle, voilà, Donald Trump, lui, a décidé plutôt de participer aux funérailles de ce policier qui avait été abattu de sang-froid, oui, par un criminel qui avait déjà 21 inculpations à son actif et qui avait été libéré dans des conditions qui restent encore à comprendre, enfin, clairement, de manière scandaleuse, puisque c'est un homme qui avait des inculpations très lourdes. Hein,
oui.
De trafic de drogue, de tentative d'assassinat, de violence sur d'autres policiers, enfin, casier judiciaire extrêmement long.
Long comme le bras.
Il avait été libéré.
Et assassiné
et
un policier.
Ce policier, malheureusement de sang-froid, père d'un jeune enfant. Eh bien, Joe Biden, lui, se trouve à New York.
À récolter des fonds pendant que son concurrent, lui, assiste aux funérailles de ce policier.
Donc une faute politique assez grave, je pense.
Ouais. Parlons, oui, soit dit en passant, cette réunion pour ce fundraising, elle a été encore une fois perturbée par des manifestations pro-palestiniennes, encore une fois, hein, où on a qualifié Joe Biden de Joe Genocide.
Oui,
Genocide Joe.
Tout à fait. Terminons peut-être par la Turquie et les élections importantes, Isaac, des élections municipales.
Oui.
Alors, quelle conclusion en tirer de la défaite, quand même, une forte défaite de Erdogan?
Ah oui, ça c'est une claque. C'est même la plus grande claque que prend l'AKP et Erdogan depuis son accession au pouvoir en 2002. Je veux dire, il a perdu contre İmamoğlu, contre son principal adversaire du CHP à Istanbul, et contre Yavaş à Ankara, aussi un autre candidat du CHP. Ça veut dire que dans les deux...
Beaucoup, et
également...
10 points d'écart.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est large défaite, et même chose à Bourdas. Donc, dans les principales villes turques, effectivement, au municipal, c'est l'opposition qui l'a emporté. C'est vrai que la situation économique n'est guère brillante en Turquie. L'inflation est de 70% à peu près.
Les taux d'intérêt à 50%.
Pardon ?
Les taux d'intérêt à
50%. Donc ça bride l'activité économique, on le comprend aisément. Donc c'est manifestement un régime qui s'essouffle et qui règne de plus en plus par la surveillance de ses propres citoyens et de l'opposition. Mais on voit bien qu'il y a une lame de fond. Petit à petit. Elle s'est déjà exprimée parce que aux élections municipales précédentes, je crois que c'était en 2019, dans les villes d'Ankara et de Istanbul, ces deux bastions de l'AKP étaient déjà tombés, mais encore plus tombés à ces élections municipales de 2024.
Il avait essayé d'ailleurs à l'époque, en 2019, d'invalider,
oui, tout à fait,
l'élection d'İmamoğlu.
Oui.
Effectivement, il avait réussi à l'invalider, sauf qu'au deuxième tour, il l'avait remporté encore de manière plus large. Donc, effectivement, c'est une lourde défaite. Et effectivement, une situation économique très difficile.
Espérons que ce soit le début de la fin.
Pour Erdogan.
Enfin, pour Erdogan.
Élection, c'est en 2028, je pense.
Oui,
donc, malheureusement,
sais.
Il a encore 4 années, si je puis dire,
à sévir
en Turquie. Mais enfin, effectivement, c'était plutôt une bonne nouvelle pour démocrates et les laïcs, si je puis dire.
Oui, en espérant que la marque qu'aura imprimé Erdogan en 22 ans de pouvoir, et peut-être les années encore à venir, n'auront pas lourdement handicapé la Turquie pour son propre avenir.
Alors peut-être une toute dernière information, une petite déception peut-être concernant Milei, le président argentin.
Ah oui.
Alors, on sait qu'il est un fervent supporter de l'État d'Israël, mais il avait promis, dans le cadre de son élection, de déplacer son ambassade à Jérusalem, qu'en est-il ?
Bien, pour l'instant, cette décision, elle est gelée. Ce serait le quid pro quo contre la nomination comme ambassadeur d'Argentine en Israël de son propre rabbin. C'est certain que c'est une déception, pas vraiment surprenante, parce que l'opposition, elle est forte dès qu'on prononce le mot Jérusalem et déplacement d'une ambassade à Jérusalem. D'un pays comme l'Argentine, c'est quand même un pays qui pèse lourd dans le continent sud-américain. Espérons que ce soit un gel provisoire.
Parfait. Isaac, ben ce sera en tout cas pour nous le mot de la fin pour cette semaine.
À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.